Apprendre à se choisir, Printemps rayonnant, épisode 6. Alors d'abord, je vais te proposer un petit détour par la simplicité versus la perfection. Simplifier, c'est sortir de la course à la performance pour retrouver la base essentielle qui fait que nous nous sentons bien dans nos vies. Par exemple, si je fais la comparaison avec les repas, il y a ceux du quotidien qui sont globalement toujours les mêmes, simples, basiques, et il y a les repas du dimanche où quand on reçoit, quand on met les petits plats dans les grands. Simplifier, c'est choisir où on met son énergie au quotidien pour ne pas s'épuiser. C'est également consentir au réel de sa vie, pour sortir d'une vie fantasmée qui cherche à ressembler à ce que l'on pense être un idéal qui nous rendra forcément plus heureux. Je ne dis pas qu'il faut vivre pour autant une vie au rabais, c'est plutôt sortir du perfectionnisme et de la logique de performance à outrance, comme j'en parlais précédemment. Sais-tu d'ailleurs que derrière notre perfectionnisme se cache généralement une peur ? Celle de ne pas être aimé, de ne pas être assez, de ne pas en faire assez pour susciter de la reconnaissance et de l'amour. Or, nous avons toutes et tous de la valeur. Nous sommes bourrés de qualités, avec un certain nombre de défauts aussi. Mais tu as surtout assez de valeur pour être aimé pour qui tu es et non pas pour ce que tu fais ou pour les services que tu rends. Alors encore une fois, on a beau le savoir, arriver à l'intégrer complètement et à le vivre, c'est beaucoup de travail sur soi. Et personnellement, je suis toujours en chemin. Mais du coup, en ayant pris conscience de cela, je suis plus vigilante et je choisis que je suis assez pour être aimée et je me le répète tous les matins avec un mantra, histoire que ça rentre vraiment. Il change de forme selon les jours, mais en ce moment, c'est plutôt « je décide de kiffer ma vie malgré tous les aléas et les enfants qui vont inévitablement me faire suer ». Ça, c'est dit. Ensuite vient le syndrome de la bonne élève. Peut-être que tu en auras déjà entendu parler, mais souvent derrière notre envie de tout bien faire se cache le syndrome de la bonne élève. Et pour étayer cela, je te cite le livre « Propulser votre carrière au féminin » de Sylvia Le Cardronel. Dans l'inconscient collectif de notre société, être bonne élève signifie apprendre, comprendre, analyser, synthétiser, mais aussi être appliquée et consciencieuse, respecter les règles, être sérieuse et travailleuse, faire ses devoirs en temps et en heure, être discrète et ne pas contester l'adulte. Le tout arbitré par les notes, les encouragements et les mentions. Avec le temps, la bonne élève se conforme au modèle et ne trouve satisfaction que si elle est reconnue et complimentée. Son système de perception évolue la conduisant à penser que sa valeur personnelle est directement liée à l'excellence de son travail. Peut-être te reconnais-tu dans ces affirmations. Je ne veux pas déranger, alors je ne pose pas trop de questions. Je veux faire mon travail au mieux, alors je pose trop de questions. Au lieu de réfléchir au sens de mon travail, je cherche à le faire bien. Je cherche l'approbation et la gratitude des autres au lieu de chercher leur respect. Je cherche à rendre les autres heureux et fiers au lieu de chercher à être heureuse et à être fière de moi-même. Alors comment sortir de ce syndrome ? L'auteur nous dit « Après avoir passé toute sa scolarité à apprendre l'obéissance, la patience, à être gentil, sage et docile, il nous faut désormais apprendre à désobéir, apprendre l'insolence, et cela ne veut pas dire entrer pour autant dans la violence et la rébellion. » Vaste programme. À mon sens, c'est apprendre à se choisir soi avant d'accepter tout des autres, et non, cela ne relève pas de l'égoïsme. Bien sûr, c'est un équilibre à trouver, et se dire oui, ça passe par les micro-actions de tous les jours que je t'invite à mettre en œuvre depuis le début du programme. Marie Dubois et Herveline Giraudot parlent de surconsommation affective et sociale dans leur livre « L'abus de consommation responsable rend heureux », à travers l'expression « se surconsommer ». Elles la traduisent par le fait de s'imposer une charge mentale de ouf et un idéal qui va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer une vie de tous les jours qui tourne convenablement, parfois jusqu'au burn-out. On surconsomme l'autre et on se laisse surconsommer par l'autre. Elles font le parallèle avec la surconsommation des ressources et des objets. Dans un cas, ce sont les ressources planétaires et dans l'autre, ce sont nos propres ressources mentales. C'est pourquoi apprendre à réguler sa tendance à la boulimie affective et sociale, c'est aussi apprendre à réguler notre boulimie d'objets et de nourriture. Et apprendre à dire non et à se faire passer en premier, ce n'est pas être égoïste. Elles vont même plus loin en affirmant que le sacrifice de soi mène à la surconsommation et c'est l'industrie qui en profite. Et donc, avant de te demander comment faire telle chose, demande-toi pourquoi tu le fais. Cela implique de faire des choix conscients et non de se laisser guider par les envies induites ou par la pression sociale véhiculée dans les films, la pub, les médias ou encore les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu peux te demander qui paye pour que les influenceurs promeuvent leurs articles, ou encore qui a un budget publicitaire si conséquent, ou encore qui fait du placement de produits dans les pubs ou les films. Bien sûr, c'est l'industrie marketing. D'ailleurs, à la fin de son livre « Votre attention est votre bien le plus précieux », Fabien Olicard donne des clés pour poser un nom qui soit non négociable et sans ambiguïté. Dans sa forme, il doit être respectueux, sans reproche ni agressivité. Sa justification, s'il y en a une, doit être rapide et montrer qu'on reste accessible. Enfin, une ouverture doit rester possible en proposant une autre option ou en définissant un cadre pour parvenir à un oui. Il s'agit donc de faire un travail introspectif pour savoir à partir de quand telle situation imparfaite me convient, car elle répond à mon besoin, et donc de choisir ses limites, ses batailles et où on met le curseur. Je vais prendre un exemple vécu. Des amis nous ont invités à un mariage. Or, ne connaissant vraiment que les mariés et un couple d'amis, et ayant des difficultés à la fois de mobilité et de fatigue, j'étais bien embêtée. À la fois, je voulais y aller, et en même temps, cela me paraissait une montagne. Au final, on a opté pour assister à la messe et au vin d'honneur, puis rentrer pour répondre à mon besoin de repos. Souvent, réfléchir à nos besoins pour ne pas se sacrifier ni trop donner, ni être trop frustré, nous oblige à faire preuve d'imagination et à inventer des solutions. Par ailleurs, même sans avoir de limites physiques, parfois on est réticent face à un événement à venir ou à une situation. Creuser ce qui bloque intérieurement, ce qui freine, est intéressant pour s'adapter, notamment en repérant nos émotions et en apprenant à décrypter le besoin derrière. Car parfois, on ne peut pas changer la situation, mais on peut influer sur la façon dont on va la vivre. Et c'est un vrai cheminement, et en prenant conscience de tout ce qui se joue, on peut davantage prendre soin de nous. Mais également mieux expliquer autour de nous nos choix pour être respectés dans nos besoins. Alors ton défi du jour tient en deux questions. Te reconnais-tu dans le syndrome de la bonne élève? Et si oui, à quoi pourrais-tu dire non dans ta vie qui te libérerait du temps? Enfin, est-ce que tu as l'impression de te surconsommer? Et si oui, est-ce que tu remarques un parallèle avec toute la publicité ou avec les influences que tu peux recevoir? Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt pour la suite.